France Inter, le 18-20.
Ce soir, nous allons en Égypte, qui a vécu des soubresauts de révolution ces deux derniers vendredis, mais étouffé par une répression forte et des centaines d'arrestations. Est-ce que l'Égypte est en train de repartir? À quel point est-il solide sur ses jambes? Al-Sissi, on posera toutes ces questions à notre invité. Le bruit du monde est en Colombie, dans une clinique qui aide les femmes à avorter anonymement. Et Amélie Perrier nous expliquera pourquoi le béret rouge est désormais interdit en Ouganda. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec des morceaux de Barbie neutre et de Pénélope Cruz. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four, un an après l'assassinat de Khashoggi, on en parlait dans le journal. Quoi de neuf en Arabie Saoudite? Eh bien, pas grand-chose. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Qatar Amoudiab.
Bonsoir.
Vous êtes consultant en géopolitique, vous êtes politologue spécialisé dans le Moyen-Orient, vous enseignez aussi à l'université Paris-Sud. Alors je l'ai dit, ce mouvement a été étouffé, c'est le moins qu'on puisse dire, on y reviendra sur les nombreuses arrestations, mais y a-t-il un nouveau soubresaut révolutionnaire en Égypte? Est-ce que c'est comme ça qu'on le qualifie?
Je pense pas, je pense que on peut pas revivre l'histoire, ce qui s'est passé en 2011. Ça a été le résultat de plusieurs années de bouillonnement. Depuis 2002, il y avait des syndicats, il y avait une société qui s'est réveillée. Et quand même, le choc était énorme. Et en 2013, l'arrivée des islamistes a provoqué une contre-révolution. Et pour cela, maintenant, la situation socio-économique s'améliore, plus ou moins, en Égypte. C'est vrai, il y a une mauvaise distribution de richesses. Et c'est vrai qu'il y a un pouvoir fort, mais compte tenu de ce qui se passe dans la région, en Libye, au Yémen, en Syrie, ce qui n'encourage pas les gens à d'autres aventures, et surtout, il n'y a pas de perspective.
Alors, c'est aussi l'argument du pouvoir que de dire, attention, regardez ce qui se passe en Libye, regardez ce qui se passe en Syrie. Est-ce que c'est quelque chose qui traverse aussi, selon vous, la tête des Égyptiens qui ont envie de manifester? Eux aussi craignent de se retrouver dans une situation chaotique à ce point-là?
Exactement, je pense à ça et je pense surtout à la situation au quotidien. L'Égypte, c'est un pays des 100 millions d'habitants presque. C'est-à-dire, ce pays, il est en train de remonter la pente. Maintenant, la croissance, c'est presque à 6%. Et même les prix d'échange de la livre égyptienne par rapport au dollar et à l'euro s'est beaucoup amélioré. Ça ne signifie pas que la situation devient très bonne pour toutes les couches sociales. Mais il y a un redémarrage de l'Égypte. Maintenant, c'est vrai, en même temps, ce qui manque, les libertés, ce qui manque aussi, c'est la présence de la société civile. Et donc là, il y a des manquements, mais je pense que le fait que les forces qui persistent, qui signent, les frères musulmans, en Égypte, on a deux grosses forces. L'armée d'un côté et les frères musulmans de l'autre.
Les frères musulmans qui ont été quand même beaucoup étouffés, c'est le moins qu'on puisse dire, par Al-Sissi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont repris du poil de la bête? Est-ce qu'ils existent encore réellement en Égypte? Est-ce qu'ils sont là par petits groupes?
Bien sûr, ils existent. Ils existent non pas par de petits groupes, ils existent par de centaines de milliers de gens. Mais par rapport à un grand pays comme l'Égypte, c'est énorme. Il y a les coptes égyptiens, ces chrétiens qui soutiennent le pouvoir et qui craignent l'arrivée des islamistes. Donc, il faut prendre tout ça en vigueur pour analyser une situation si compliquée. Et donc, c'est vrai que le passage à la démocratie dans des pays comme l'Égypte ne peut pas se faire d'un seul saut. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en 2011, ça permettait plus ou moins l'amélioration de l'histoire de l'État. Maintenant, pour passer à un autre stade, des libertés publiques, d'une démocratisation réelle, ça demande encore du temps, ça demande une culture démocratique et ça demande aussi une révision de la part des partis politiques derrière le programme. Si les islamistes ne révise pas leur méthode, s'il n'y a pas de force de gauche, de force libérale, de force de la société réelle, on aura beaucoup de mal à aboutir à un changement en Égypte.
Parce que ce qu'on a vu quand même, c'est une répression importante. On parle de près de 2000 arrestations. Et quand on parle d'arrestations, on parle d'avocats, on parle d'ONG, on parle de journalistes. On parle de ce jeune homme qui avait été considéré comme une icône de 2011, qui s'appelle Alaa Abdel Fattah, qui avait d'ailleurs ni manifesté ni appelé à le faire. Qu'est-ce qu'elle dit, selon vous, de la part d'Al-Sisi, cette répression? Est-ce qu'on est en train aussi de revenir à une Égypte autoritaire?
Et de toute façon, l'Égypte reste autoritaire, c'est le pays des pharaons. Et à travers son histoire, l'Égypte n'a pas essayé de régime tout à fait démocrate. C'est vrai, il y avait toujours des excuses, la situation sociale, la situation régionale, comme on dit, les chaos dans la région, mmh. les risques de l'éclatement même oui. des pays. Mais
c'est bon vrai. Bon vieil argument, moi ou le chaos, c'est ce que disent en général tous les gens qui utilisent des méthodes, autoritaires.
Mais c'est vrai en même temps. Car en fait, qu'est-ce qu'on propose comme alternative? Par exemple, ce monsieur-là qui a fait toute cette histoire, c'est un ancien de...
Vous parlez de Mohamed Ali?
Mohamed Ali, un ancien entrepreneur. Un acteur
qui est exilé. Qui est exilé. En
mais Espagne. C'est vrai, lorsqu'on observe de près ces vidéos, on comprend bien quand même que les frères musulmans ne sont pas loin. Mm-hmm. Et les frères musulmans qui ne veulent pas agir directement.
Vous pensez qu'il
par
était
exemple,
téléguidé?
Vous imaginez une chaîne française TF1 consacrée à l'Allemagne. Mm-hmm. Il y a une chaîne au Qatar qui s'appelle Al Jazeera Égypte. Et la méthode islamiste de cette chaîne, c'est toujours de demander la révolution en Égypte.
Vous pensez qu'on
ne peut pas demander la révolution, par exemple, dans un pays comme le Qatar, c'est 100 000 personnes.
Vous pensez que Mohamed Ali est téléguidé par les frères musulmans?
Oui.
Le fameux Mohamed
Ali.
Oui,
je pense, selon moi, il n'a pas une présence réelle. S'il n'est pas aidé par ces groupes, et surtout on voit bien quand même une sorte d'une campagne médiatique de la part de la Turquie et des Qatar qui dirigent les frères musulmans contre l'Égypte. Ça ne signifie pas que l'Égypte et son axe ne fait pas aussi sa campagne et n'essaye pas de travailler de la même façon ailleurs. Donc l'Égypte est aussi au centre de ces division régionale de ces axes régionaux.
Qatar Abou Diaf, je voudrais vous emmener au Caire l'espace d'un instant. On sait que donc ces deux derniers de vendredi de manifestation ont été importants et puis les choses se sont arrêtées, notamment parce que ça a été très compliqué de manifester, particulièrement d'ailleurs pour les jeunes, donc la génération des moins de 30 ans, ceux qui étaient déjà dans la rue en 2012, ou peut-être que leurs grands frères étaient dans la rue, eux en tout cas estiment qu'ils vivent dans une Égypte bâillonnée. Ce sont des gens qui sont en général sans travail, sans revenu stable réellement. Une jeunesse donc au bord du gouffre, et c'est un reportage signé Martin Rioux, on se retrouve juste après. Martin Roux, pardon.
Les rues du Caire sont étroitement surveillées par la police. Parler à un journaliste étranger relève du courage. À l'abri des regards, Mohamed, âgé de 28 ans, accepte de témoigner.
Je connais des gens qui sont allés à la manifestation. Chaque jour, tu peux trouver quelqu'un de mes amis a été arrêté par la police. C'est impossible d'être égyptien et ne connaître pas quelqu'un qui est prisonnier. J'ai peur d'être arrêté pour chercher sur mon portable. S'il y a quelques officiers qui a doute sur moi, alors je suis à la prison s'il y a de doutes.
En seulement 10 jours, au moins 2200 personnes ont été arrêtées, en majorité de jeunes urbains entre 18 et 25 ans, excédés par la pauvreté qui progresse dans le pays. Mohamed Lotfi dirige une ONG qui recense ces arrestations. Par mesure de sécurité, il a réduit ses déplacements et ne répond qu'aux appels cryptés.
La frustration est toujours là, rien n'a changé. L'approche lourdement sécuritaire qui consiste à interdire les manifestations et à arrêter autant de personnes que possible, c'est efficace, mais uniquement à court terme. Qu'est-ce que cela signifie, la stabilité? Cela veut dire que les gens peuvent trouver du travail et vivre décemment. C'est cela la stabilité à long terme qui mène à la prospérité.
Près d'un tiers des moins de 30 ans sont au chômage. Avec son diplôme d'avocat, Mohamed lui travaille, mais il est pourtant incapable de quitter le foyer familial.
Chaque jour, les prix augmentent, chaque jour. Je touche maximum 2000 livres égyptiens, 3000 par mois. Pour trouver une place pour résider, ça coûte près de 2200 livres égyptiens, alors il va rester 800 livres égyptiens. C'est pas suffisant du tout. Le problème, c'est l'avenir. J'ai pas d'idée pour l'avenir, vraiment.
Seul horizon, l'exil. Ahmed tente depuis 2 ans de partir en Europe. Après plusieurs refus, cet ingénieur de 25 ans vient finalement d'obtenir un visa d'études en Pologne.
Non, je vais encore vérifier mon passeport et la réponse de l'ambassade. Je ne pouvais pas le croire. Finalement, mon rêve se réalise. Peu importe le pays, tu obtiens un visa, tu le prends. Avec le nombre de personnes qui recherchent du travail, c'est vraiment difficile d'être embauché. Il y a beaucoup de concurrence et bien sûr, ceux qui passent en premier sont ceux qui ont des relations.
Après son master, retourner en Égypte serait pour Ahmed un échec. Il rêve de trouver un emploi en Europe pour enfin, dit-il, commencer sa vie.
Qatar Abu Diab, ils sont assez édifiants ces témoignages. Effectivement, un tiers des jeunes aujourd'hui au chômage, des prix qui augmentent chaque jour. J'ai retenu cette phrase du jeune homme qu'on vient d'entendre et qui dit « je n'ai pas d'idée pour l'avenir ».
Oui, les chocs de la jeunesse, c'est pas particulier à l'Égypte. Mais non. Peut-être en Égypte, c'est avec le manque de liberté, c'est plus quand même insistant. C'est vrai, quelque part, avec maintenant, il y avait beaucoup de mesures très dures. On a arrêté tout soutien au pain, tout soutien au carburant, tout soutien à plusieurs choses. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un manque d'injustice. Par exemple, imaginez le soutien au carburant qui profite parfois, c'est la classe riche ou tout à fait la haute bourgeoisie. Mais quoi que l'on soit, si ces mesures de stabilisation économique ne s'accompagne pas des mesures sociales et d'ouverture des marchés pour la jeunesse, des libertés individuelles, c'est vrai que l'horizon reste fermé. Pour cela, le pouvoir égyptien sait très bien de faire un État fort et de d'immuniser l'Égypte contre les chaos destructifs des autres États. Mais ce qui est intéressant, de tenter de démocratiser les pays, même d'une façon progressive.
Si on a vu effectivement ces jeunes tenter de manifester, si on a vu la manière dont elles ont été réprimées, est-ce que ça veut dire quand même que Sisi a peur? Est-ce qu'il est réellement solide sur ses deux jambes? Est-ce qu'il y a une crainte que peut-être les choses repartent? Ou peut-être de l'autre côté, vous parliez tout à l'heure de l'autre pilier qui était l'armée, ou peut-être aussi des divisions au sein de l'armée. Est-ce qu'il y a une crainte chez Sisi quand même?
Vous savez, avec des régimes comme ça, c'est toujours, il y a des craintes, même si c'est des petits mouvements, c'est-à-dire par un énorme pays comme l'Égypte, ça reste quand même des petits mouvements. Mais c'est vrai, il y a l'étincelle, il y a les risques de division au sein des cercles de pouvoir et des cercles influents. Mais aussi, il y a les souvenirs de 2011, de tout ce qui s'est passé. Je pense, c'est vrai, la crainte, elle est là, mais je pense que le pouvoir ne va pas hésiter. Ne va pas hésiter, car c'est un pouvoir installé avec une certaine délégation populaire, une certaine adhésion populaire. Je pense il y aura toujours dans un pays comme l'Égypte. Il faut installer de plus en plus une culture démocratique pour pouvoir aller de l'avant.
Je vous posais la question notamment au sujet de l'armée, parce que il y a ce personnage qui s'appelle Sami Anan, vous souvenez, qui avait été candidat aux élections et puis finalement sa candidature avait été invalidée, mais qui a envoyé une sorte de message à l'armée, y compris avant une manifestation première. Donc est-ce qu'il y a une tentative à l'intérieur de la diviser, cette armée-là, d'affaiblir Sisi par ce biais-là?
Écoutez, en fin de compte, ça existe toujours des petites dissensions, des courants, mais je pense, grosso modo, que cette grande dualité qui persiste depuis 1952 entre l'armée d'un côté et les frères musulmans, l'armée comme pilier principal de l'État, c'est ça qui protège l'unité de l'armée. Car en fait, l'armée a beaucoup de privilèges. Et l'armée gère plus ou moins une bonne partie de l'économie de l'Égypte. Mais c'est aussi en même temps, comme elle est dominante, c'est un besoin pour que l'Égypte fonctionne. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut sauvegarder pour longtemps. Il faut changer les méthodes en Égypte à commencer par la méthode de la gouvernance.
J'ai une toute dernière question pour vous, j'ai une curiosité, Qatar Abou Diab. Comment on regarde ce qui se passe au Soudan en ce moment, en Égypte, parce qu'on est dans des situations qui peuvent être au fond assez similaires. Ce qui est très intéressant chez les Soudanais, c'est qu'ils ont déjà clairement dit que leur transition se ferait sans l'armée. En tout cas, ils ont donné des deadlines,
un délai.
Voilà. Donc on est dans deux situations miroirs qui doivent se parler quand même, non ?
Exactement. La situation au Soudan, c'est un exemple. Si la marche vers un pouvoir civil au Soudan, avec des concessions de l'armée, se confirme, ce serait un exemple pour l'Égypte. Et l'Égypte ne pourrait pas échapper à faire attention à cet exemple soudanais. Il y a le pire, que la situation libyenne devient l'exemple de la situation en Égypte et de la situation au Soudan. Et dans ce cas, c'est le chaos destructif qui se déplace. Pour cela, il y a une course contre la montre dans cette zone de monde, car on est quoi que l'on soit, dans une zone, dans un monde arabe en gestation. Ce tsunami arabe qui a commencé en 2011 n'est pas terminé. Il y a toujours un monde arabe en gestation, on ne voit pas tous les contours pour le moment.
Et vous le disiez, qui évolue donc de manière très différente quand on regarde les voisins égyptiens entre la Libye et le Soudan. Et c'est ça qui est passionnant aussi, Qatar Abou Diab. Merci beaucoup.
Merci à vous.
De votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci. Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde en Colombie, dans une fondation qui accepte d'avorter des femmes anonymement. Et puis Amélie Perrier, vous nous emmenez en Ouganda où une chose étonnante est interdite.
Oui, le béret rouge, je vous dirai pourquoi.
Ben voilà, quel suspense. Passons genre à Julia Fox, Dialemolo, et ce soir une info étonnante, on sait enfin pourquoi les mères sont plus stressées que les pères.
Ouais, gros suspense aussi, et c'est du breaking news, vous verrez.
Voilà, c'est une étude américaine. Le monde à l'envers, bonsoir Jean-Marc.
Amélie, bonsoir, bonsoir.
Avec Hassan Rassoghi qui est mort il y a un an, et depuis.
Oui, on peut commanditer un assassinat barbare et s'en tirer tranquillou.
Allez, à tout à l'heure, le tour de la planète n'est pas fini. Il nous emmène en Zambie, figurez-vous. Sampa the Great est une jeune femme étonnante et la chanson s'appelle Final Form.
Y'all already comfortable, stuck up in the matrix. This basic, patch credentials. But I understand your favorite rapper, peep my gold potential. I'm out of shame, been past it. Trying to fit a circle cause I don't know how to act. Half of y'all was steady, insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic. Young veteran, new classic. Now I knock the walls off. The whole key, we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits. Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back design, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this, I put my pen in it, got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh on my flesh. Greatness in me, you can't make me feel less. Let's hold, I'm not impressed. Best smoke on my effort like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. First name Eve, somebody ate the food they told the great to never eat. I'm tripping, DNA sees like I'm born great. I be mad 2 G's, third world in it, first world I dated. No mentor, all my heroes assassinated. We been here, reincarnated. Tryna finish what they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my
my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin.
Le bruit du monde, ce soir, nous emmène en Colombie. Nous sommes dans une clinique où l'avortement, en Colombie, où l'avortement est toujours illégal. Mais là, on essaye d'aider les femmes et on essaye de le faire anonymement, puisque très souvent, pour éviter d'être en danger, il faut trouver des stratégies de contournement. C'est ce qu'on fait donc en Colombie et le reportage est signé Najet Beraba.
Donc, la personne arrive, se change. Elle dépose ses affaires à l'entrée, puis elle passe dans la salle de procédure, tout équipée pour procéder à l'IVG. Il y a une chaise gynécologique, un moniteur pour faire des échographies, pour faire un nouveau contrôle avant d'entamer la procédure. Tout se fait à travers l'échographie. On a des écrans de contrôle. Sur cette table, on met le matériel nécessaire.
C'est dans cette pièce que nous visitons avec Monique Achille, la co-directrice de la fondation Unimedicos, qu'ont lieu les procédures d'interruption volontaire de grossesse. Chaque mois, entre 30 et 40 avortements sont réalisés, le tout dans le cadre de la loi. Eifer Rodriguez, le directeur de la fondation.
En Colombie, il y a une loi, la C-355, qui date de 2016, qui a permis de dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse dans trois cas. Le premier cas est lors d'un viol, d'inceste ou d'insémination artificielle non consentie. Le deuxième cas, quand le fœtus a une malformation qui est incompatible avec la vie extra-utérine. Et le troisième cas, quand la vie ou la santé de la femme est en danger. Quand on parle de santé, on ne parle pas uniquement de la santé physique, mais aussi de la santé mentale. Et cette dernière n'est pas uniquement liée à des problèmes psychiatriques. C'est également quand cela affecte l'environnement social de la femme.
Depuis leur création il y a environ 10 ans, les dirigeants ont également réussi à ouvrir des antennes dans d'autres villes colombiennes et créer des alliances avec des pays d'Amérique latine comme le Costa Rica et le Panama. Malgré tout, les tarifs restent élevés car il n'y a pas d'aide gouvernementale.
En euros, on pourrait dire que l'intervention coûte entre 150, 200 ou 300 euros. Tout dépend de l'état de difficulté de l'interruption volontaire de grossesse.
Ce qui est ici un salaire minimum mensuel.
Oui, c'est à peu près ça.
Parmi les Colombiennes qui ont bénéficié des services d'Unimedicos, il y a Camila. Son nom a été modifié pour protéger son anonymat. Cette trentenaire native de Medellín s'est tournée vers la fondation l'an dernier après une mésaventure dans une clinique.
Après plusieurs jours, je suis allée voir le médecin dans la clinique où j'avais fait le test de grossesse avec une prise de sang. Là-bas, ils m'ont fait un examen pour vérifier comment allait mon utérus. La personne qui m'a reçue m'a dit qu'on voyait l'embryon et qu'il était bien accroché. Elle était très optimiste. À aucun moment, elle m'a demandé ce que je voulais faire, si je voulais le garder ou non. Elle m'a dit « Regarde, il fait 5 mm ». Et elle m'a demandé si je voulais écouter le rythme de son cœur. J'étais terrifiée parce que j'étais déjà à 7 semaines. Et à ce moment, il était impossible d'écouter le cœur de l'embryon.
Y me preguntó que si quería escuchar el latido del corazón y yo me asusté mucho porque
mais cette personne a insisté et m'a fait écouter un son, soi-disant le cœur de l'embryon, le son d'un cœur qui battait avec le rythme cardiaque d'un adulte. Elle ne m'a rien dit de plus, ni donné d'options ou d'informations.
Audio del corazón, supuestamente el corazón del embrión, y se escuchaba exactamente con los mismos latidos del corazón de una persona adulta normal.
Elle m'a juste dit « rendez-vous dans 3 semaines » en me laissant les photos de l'échographie. À ce moment-là, j'étais effrayée parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est il y a une vie là-dedans et je vais la tuer. Je suis donc une mauvaise personne.
Durant des semaines, elle a gardé secret tout le processus.
Cette situation m'a énormément fait réfléchir. Je ne pensais pas que la situation était si complexe en Colombie et que l'Église avait un si grand pouvoir sur les décisions des individus, et d'autant plus dans une clinique où ils sont supposés être neutres. J'ai bien vu que non. On est vraiment mal informés en Colombie.
À Unimedicos, une vingtaine de personnes, médecins, infirmières et personnel administratif, accueillent jusqu'à 300 personnes par an.
Najat Benrabah, dont j'ai écorché le nom tout à l'heure, pardon, à Medellin pour Un jour dans le monde. Le bruit du monde passe aussi sous les radars, attrapé au vol par Amélie Perrier. Amélie, c'est au Japon que nous sommes. Ce 1er octobre, c'est une date redoutée. C'était une date redoutée au Japon, le jour de la hausse de la TVA.
Oui, au Japon, on parle d'une taxe sur la consommation, mais c'est bien l'équivalent de notre TVA. Elle est passée aujourd'hui de 8 à 10% pour la plupart des biens. Quelques exemptions quand même, les journaux et l'alimentation. Mais l'addition au resto et l'alcool passe bien à 10%. Cela se traduit d'abord par une hausse des prix, première mauvaise nouvelle, mais aussi par l'apparition de deux niveaux de TVA, 8 et 10%. Le riz que vous achetez à l'épicerie, Fabienne, 8% de TVA. Le saké, 10%. C'est un système un peu complexe, des caisses enregistreuses à changer.
Et le riz au saké, je ne vous dis pas.
Bah alors là, ça devient très très compliqué. D'ailleurs, il y a des ruptures de stock en ce moment, des caisses enregistreuses. C'est la seconde mauvaise nouvelle pour les commerçants. Écoutez Takashi Ohara de la Chambre de commerce et d'industrie du Japon, interrogé par la chaîne de télé CNA. Il nous dit les entreprises de petite taille en particulier ne sont pas assez préparées, c'est ce qui ressort de nos enquêtes, on les observe de près. On pense qu'on pourra et qu'on devra leur fournir de l'aide et un support à cause de la hausse de la taxe. Alors en fait, jusqu'au bout, les commerçants ont hésité à changer leur système car la mesure a déjà été différée deux fois par le passé. Mais l'augmentation de la TVA entre bien en vigueur aujourd'hui et pour la première fois au Japon, plusieurs niveaux de taxes cohabitent. Un casse-tête pour les petits commerces qui vendent des repas sur place ou à emporter et l'obligation donc de changer sa caisse enregistreuse. Le gouvernement a subventionné une partie de ses coûts supplémentaires. À l'échelle du pays, on redoute un écroulement de la consommation à chaque hausse de la TVA. En 97 et en 2014, le pays avait plongé dans la récession. En fait, les salaires n'augmentent pas au Japon, donc toute augmentation de la TVA, eh bien, ça implique une réduction directe du pouvoir d'achat. Mais le gouvernement a besoin de nouvelles rentrées fiscales. La dette publique atteint un niveau abyssal, 226% du PIB en 2018. Pour comparer en France, elle est de 98%. Et la protection sociale coûte de plus en plus cher à cause du fort vieillissement de la population.
Allez, un article est désormais interdit en Ouganda, le béret rouge.
Oui, gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Ouest, dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement vient de l'annoncer, les civils n'ont plus le droit de porter un béret rouge. Car bien plus qu'un accessoire de mode, le béret rouge, aujourd'hui, c'est un symbole de résistance porté par l'opposant numéro 1 au pouvoir, Bobi Wine. All man, remember that everything you believe you can achieve, man. Watch this. Et oui, c'est le dernier titre de Bobi Wine, Osobola, ça s'appelle. Et on peut le traduire par un peu comme le Yes You Can d'Obama, ça veut dire tu peux le faire. Mais aujourd'hui, ce que les partisans de Bobi Wine ne peuvent plus faire, donc, c'est arborer un béret rouge. C'est passible d'une peine de 5 ans de prison. L'armée considère en fait que c'est un accessoire militaire réservé aux soldats. Ce chanteur, on vous en a déjà parlé ici, Bobi Wine. Chanteur, oui, mais aussi député. Il est devenu le porte-voix des opposants au président Museveni, au pouvoir depuis 33 ans. Bobi Wine rassemble des foules immense à ses concerts et à ses meetings. Il a été arrêté plusieurs fois, les autorités l'empêchent de s'exprimer. Mais Bobi Wine n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il a annoncé cet été sa candidature à la présidentielle dans 2 ans.
Allez, on termine un peu plus au sud. Nous sommes au Botswana, dans le delta de l'Okavango.
L'Okavango, oui, ces noms mythiques vous font peut-être rêver, mais aujourd'hui la région se transforme en cimetière pour les espèces en voie de disparition. La région est frappée par une sécheresse terrible, comme nous le raconte ce fermier au micro de l'AFP. Il s'appelle Banyatsang.
Il nous dit, on appelle ce point d'eau derrière moi Nkaraga. Notre bétail et les animaux sauvages boivent ici.
Et la sécheresse nous affecte beaucoup parce que, dit-il, on n'a plus d'eau et on n'a plus d'herbe.
Et la situation devrait tous nous alerter car le Botswana abrite la plus importante population d'éléphants en liberté en Afrique, une population plus menacée que jamais.
Amélie Perrier, I'll Presume. À demain pour le bruit du monde sous les radars.
À demain.
Julia Foyce est là juste après David Bowie. Tiens. David Bowie et Rebelle Rebelle. Tiens, en parlant de Rebelle, Julia Foyce est là avec les genres de la planète en bandoulière, s'il vous plaît.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia qui nous donne chaque semaine des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec la question de la semaine.
Pourquoi les mères sont-elles plus fatiguées et plus stressées que les pères quand elles s'occupent de leurs enfants? Si. On se pose très sérieusement la question, surtout à l'université de Pennsylvanie, un état, comme on sait, totalement dépourvu de parents et d'enfants, hein, qui aurait pu éventuellement leur donner quelques éléments de réponse. En l'absence donc de cas réels à disposition, les chercheurs ont commencé par se demander qu'est-ce que s'occuper d'un enfant? Décidément totalement hors sol, les chercheurs ont bien compilé une série de tâches éducatives que je vous épargne, hein, tout le monde sachant grosso modo à quoi ressemble la journée d'un parent. On passe directement à la deuxième question de l'étude. Qui fait quoi? Je vous le donne en mille et mille. Non seulement les pères se tapent la plus grosse partie du boulot, mais en plus les tâches ingrates sont pour eux pendant que madame joue au squash. C'est pour voir si vous suiviez.
Oui, je suis.
Il semblerait bien que les pères s'adonnent plus volontiers aux activités de loisirs en fin de semaine quand les mères, elles, sont davantage impliquées toute la semaine dans des activités liées aux soins et aux transports. Mais non, dinguerie.
Il y avait des guillemets là, donc.
Franchement, cela dit, on atteint les sommets avec la troisième question. Une sortie familiale au terrain de jeu n'ayant par exemple pas le même impact sur l'humeur que changer des couches au milieu de la nuit, se pourrait-il que cette répartition des tâches influe sur l'humeur de chacun? On leur répond, Fabienne? Non, pas le temps. Dernière question d'une enquête décidément collector. Cet équilibre communément observé dans la plupart des familles étudiées résulte-t-il d'un choix personnel ou bien de contraintes extérieures au couple parental? Eh ben alors là, ils savent pas. Ils sont même un petit peu embêtés, les chercheurs, parce que quand ils interrogent les pères, vraiment, vraiment, les pères aussi auraient envie de changer les couches en pleine nuit, c'est juste qu'ils ont des contraintes extérieures et professionnelles. Eh ben voilà, c'est ça.
Allez, on enchaîne avec le pronom de la semaine.
Répétez après moi, Fabienne, oui, ce soir, je joue un petit peu avec vous.
Oui.
They.
They.
Ok, they. Pronom personnel, troisième personne du pluriel. Jusqu'ici, le Merriam-Webster, dictionnaire américain de référence, vient d'y entrer un second usage. Il désigne désormais une personne ne se sentant ni homme ni femme, voulant échapper à la traditionnelle binarité du genre. Une évolution qui suit de près celle qu'on a pu observer cette année dans quelques villes des États-Unis où l'on peut, sur ses papiers d'identité, cocher une case neutre quand on ne veut ni d'un F ni d'un M. La société évolue, la langue doit s'adapter, soutiennent les partisans de ce nouveau day, et moi j'en connais certains qui doivent surtout s'en étrangler.
Mais vous avez pire pour eux, je crois. Allez-y,
j'ai toujours pire, évidemment, pour vous dans ma besace. Ce sera mon objet de la semaine. Pour finir, le soixantenaire de Barbie en beauté, Mattel lance une toute nouvelle gamme de petits cousins ou cousines, ou ce que vous voulez, en fait, parce que ces six poupées de ce Creatable World sont neutres, contrairement à leur aîné, dont la silhouette fuselée a pu rendre anorexique les trois quarts de la planète. Le quart restant hésitant encore entre boulimie et dépression. Ces petites nouvelles ont la morphologie moyenne d'un enfant de 7 ans. Entendez, sans signe distinctif du masculin et du féminin. Et je vous vois venir, Fabienne, ne me parlez pas de ce qu'il y a dans le slip. Ken non plus n'avait rien dans son slip. Bref, on a dit pas de signe distinctif. Et vendu avec un kit qui permet de leur donner des cheveux courts ou longs, des vêtements de fille ou de garçon en fonction de l'envie du moment. Alors oui, on pourra toujours taxer Mattel d'un chouille d'opportunisme, mais ce serait oublié et croyez-moi, ça m'arrache la bouche de le reconnaître, qu'ils ont été les premiers à faire une Barbie présidente, une Barbie informaticienne, une Barbie en hijab. Cela dit, moi, tant que j'ai pas eu de communiqué officiel où Mattel reconnaîtra enfin que Barbie était avec Skipper et que ce débile de Ken n'était qu'une couverture, je garderai mes distances.
Non, attendez, Skipper, c'était sa sœur.
Non, moi, je vois très très clair dans leur jeu à ces deux petites greluches.
Allez, on termine en beauté avec votre femme de la semaine, Julia.
Penélope Cruz, évidemment, l'actrice espagnole était hier sur la scène du Festival du film de Saint-Sébastien, rappelant que dans son pays pourtant en pointe hein, sur les questions de violences faites aux femmes, 44 avaient encore été tuées cette année, soit un millier de femmes victimes de violences conjugales en 10 ans. Elle enchaîne.
J'aimerais que quand une femme trouve la force surhumaine et nécessaire pour dénoncer ce qu'elle vit dans une telle situation, on l'écoute. Mais qu'on l'écoute tout de suite, pas quand il est déjà trop tard. Merci beaucoup.
Voilà, moi j'ai rien à ajouter, vous?
Ben non, Penélope Cruz, Julia Foyce, même combat.
Ben
allez,
voilà.
À la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'était il y a un an l'assassinat à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans des conditions épouvantables. Il s'en était suivi un tollé international contre l'Arabie Saoudite. Un an après, eh bien, c'est quasiment comme si rien ne s'était passé. Le prince héritier Mohamed Ben Salman, pourtant pointé du doigt, semble sorti d'affaire et c'est votre monde à l'envers.
Alors si on est cynique, disons-le, que rien ne se passe, c'était assez prévisible. Mais ça n'en est pas moins choquant, et c'est encore plus choquant quand on met cette inaction en regard de la barbarie des faits. Il faut la rappeler, c'est un scénario digne d'un film d'horreur, gore, sanguinolent, un peu la Stephen King, sauf que c'est la réalité. Le 2 octobre 2018 à 13h14, Jamal Khashoggi pénètre dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. À 13h39, il est mort et les circonstances sont atroces. Ce sont les enregistrements clandestins effectués, vous savez, par les services turcs qui racontent dans les détails l'assassinat épouvantable épouvantable de ce journaliste devenu opposant au régime saoudien. Des enregistrements confirmés par la CIA, validés par l'ONU dans un rapport de 100 pages. J'en ai imprimé d'ailleurs ici les premières pages, je vous les montre en studio. Vous trouverez le lien sur le site de France Inter. C'est un rapport qui donne froid dans le dos. Un commando saoudien attend donc Khashoggi à l'intérieur. Il le drogue, puis il découpe son corps en morceaux avec une scie électrique à même le sol de l'une des pièces du consulat. On entend le bruit de la scie sur les enregistrements. Le corps disparaît, peut-être a-t-il été dissous dans de l'acide. L'Arabie Saoudite a d'abord nié les faits avant de reconnaître l'existence, je cite, d'un commando incontrôlé. 11 hommes sont en procès depuis janvier à Riyad, un procès qui n'avance pas.
Pardon Jean-Marc, et le prince héritier MBS n'a donc pas été inquiété?
Ben non, zéro. Alors que tout laisse penser qu'il est le commanditaire de l'opération, l'un de ses plus proches conseillers, Saoud Al-Khatani, semble directement impliqué. Et puis on ne fera croire à personne que dans un régime comme l'Arabie Saoudite, un commando de 15 hommes vient comme ça découper un journaliste en morceaux dans un consulat sans un feu vert au plus haut niveau. L'ONU, au vu du dossier, a d'ailleurs appelé à une enquête sur MBS, Mohamed Ben Salman, mais rien n'est arrivé. Le prince héritier s'est même payé le luxe de dire « Je me sens responsable parce que je suis le dirigeant, mais je n'étais pas au courant. » Ou bien encore « Vous n'imaginez pas la douleur que nous avons subie à cause de cette affaire. » Plus c'est gros, plus ça passe. Ajoutons que dans le même temps, plus de 30 journalistes ou blogueurs sont emprisonnés sur le sol saoudien et que derrière une façade de libéralisation du régime se cachent des arrestations d'opposants et de la torture. Tout ça passe comme une lettre à la poste. En fait, MBS s'est relevé très vite. C'est un diplomate en poste à Riyad qui l'affirme. Un an après, le prince est même plus fort. À l'intérieur, il a obtenu le soutien de son père, le roi Salman. Il a renforcé sa mainmise sur le pouvoir en écartant des rivaux et en plaçant des proches à des postes stratégiques comme son demi-frère Abdelaziz. Et à l'extérieur, sur la scène internationale, il n'a passé finalement que de brèves semaines au purgatoire. Malgré les convictions de la CIA sur son implication, Donald Trump n'a rien dit, en avançant un argument assez simple. America first, nous n'allons pas sanctionner Riyad pour ça, il y a des centaines de milliards en jeu à cause des ventes d'armes. Puis côté européen, c'est pas beaucoup mieux, on a fait les gros yeux, puis c'est à peu près tout, seuls les Allemands et les Danois ont pris de véritables sanctions. Résultat, MBS a réintégré le club du G20 l'été dernier et ce même G20 aura lieu à Riyad l'an prochain, ce qui est une première pour un pays arabe. Quel symbole ! Le message est clair, l'affaire Khashoggi, c'est du passé.
Mais pourtant, Jean-Marc, l'Arabie Saoudite apparaît plus affaiblie qu'il y a un an sur la scène internationale.
Oui, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec l'assassinat du journaliste. Riyad et le presse MBS sont en situation inconfortable pour de toute autre raison. L'échec patent de la guerre au Yémen, elle coûte une fortune, les Émirats s'en retirent, les rebelles houthis défient les Saoudiens chaque jour un peu plus. L'échec de la stratégie poussant Washington à affronter l'Iran, le grand rival de l'Arabie Saoudite, Trump rechigne au conflit. La vulnérabilité des installations pétrolières saoudiennes, on l'a constaté lors de ces récentes attaques de drones. Et puis les ratés au démarrage du chantier de diversification de l'économie du pays, les investisseurs tardent à venir. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai, l'Arabie Saoudite de MBS est fragile, mais elle ne l'est pas pour avoir découpé un opposant en morceaux. Ça, c'est pas grave. La scie électrique peut bien continuer à fonctionner tant que le pays continue de nous fournir du pétrole et de nous acheter des armes.
Le monde à l'envers, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Ne bougez pas, on s'occupe de tout.